vous allez écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans l'émission Sur ma route. En ce mois d'avril, nous allons parler du risque routier en deux roues motorisées, donc le thème de cette émission. Pour en parler avec nos invités du jour, nous recevons aujourd'hui Monsieur Xavier Le Gall, responsable de l'association Vigideroux. Bonjour Monsieur Le Gall.
Bonjour.
Et nous recevons aussi Monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Bonjour.
Bonjour.
Et merci donc d'avoir accepté cette invitation. Alors, à mes côtés pour m'accompagner sur cette émission, Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Florian.
Nous allons donc parler un petit peu de risque routier motorisé. On va parler moto, mais juste pour planter un petit peu le décor, on va rappeler que pour vous deux, vous faites de la moto, notamment 25 ans de moto pour Monsieur Le Gall et 30 ans de moto pour Monsieur Geoffrey, donc, qui est notamment ancien motard aussi de la police nationale, il faut dire. CRS 60 est chargé de deux roues motorisées au niveau du département. Pour commencer un petit peu, on va premièrement parler du risque routier en deux roues motorisées, mais d'une façon générale. On aura aussi une deuxième partie consacrée notamment aux causes d'accidents et les actions mises en place pour les limiter. Et enfin, une troisième partie, on parlera plus équipement et entretien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le risque routier en deux roues motorisées, Monsieur Le Gall ?
Le risque routier en deux roues motorisées, c'est surtout une vulnérabilité due effectivement aux moyens de locomotion. Puisque je vous rappelle que sur une moto, la seule protection que nous avons, c'est une protection d'équipement, d'accord ? Et pas de carrosserie, je dirais pas de moyens supplémentaires de se protéger, à part la qualité et la fiabilité des équipements du motard sur son engin.
Alors, de quel véhicule est constituée la catégorie de roues motorisées et quelle est la différence qu'on peut faire entre un scooter et un cyclomoteur, peut-être ?
Alors, les deux roues motorisées, pour nous, lorsqu'on parle de chiffres de deux roues motorisées, ce sont tous les deux roues. Donc que ce soit des 50 cm3 jusqu'aux grosses cylindrées. Tout cela, ça rentre dans la partie de roues motorisées. Ce sont les scooters. Alors les scooters, ce qui les différencie des autres, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, de permis à proprement parler. Il y a ce qu'on appelle le permis AM maintenant, mais qui est l'ancien brevet de sécurité routière. C'est moins poussé, puisque c'est une formation de 7 heures, qu'un véritable permis. Voilà ce qui peut changer. Les risques sur la route, ce sont les mêmes. Comme disait Monsieur Le Gall, que ce soit un petit scooter ou une grosse moto, la seule protection, ce sont les équipements que l'on porte.
Alors, les accidents se produisent-ils plus sur le réseau principal, pour les deux roues motorisées, plus sur du secondaire, plus sur de l'autoroute, plus en agglomération, si les routes sont étroites? Alors, est-ce que ça rejoint un petit peu aussi la partie voiture, quelque part? C'est la même chose ou pas du tout?
Ce sont les mêmes usagers que les voitures. Les accidents ont lieu sur les routes départementales. Les nationales, il y en a de moins en moins, mais sur le réseau départemental, l'autoroute est relativement sûre, comme voirie, donc on a très peu d'accidents moto sur les autoroutes. Voilà, ce sont les routes départementales qui sont les plus dangereuses de toute façon.
Alors, route départementale, vous aviez un chiffre tout à l'heure, Monsieur Le Gall, vous nous disiez que ça rejoint un petit peu ce que nous disait Monsieur Geoffrey. Au niveau pourcentage, puisqu'il nous a dit que beaucoup de personnes conduisaient des motos, au niveau voiture, 80% à peu près ?
88% des automobilistes, des motards, pardon, sont aussi des automobilistes.
Et concernant le degré de gravité des accidents, est-ce qu'il s'agit en majorité d'accidents matériels ? Enfin, si vous avez les chiffres, les chiffres ou une idée, une tendance.
Je n'ai pas le détail des chiffres, puisque moi, dans mes remontées, je compte les tués principalement, parce que ce sont les indicateurs qu'on nous demande. Que ce soit les 125 ou en dessous, c'est pas systématique. On va dire que le plus gros des accidents, ce sont les gros cylindrés, si on veut parler chiffres. En moyenne, dans le département, on a 6 tués par an, en gros cylindrés. En petit cylindré, ce sont 2 personnes, en moyenne, qui se tuent tous les ans.
J'ai les chiffres de 2017, c'est environ 2% du trafic, les motards, mais c'est 22,7% des tués et 34% des blessés. D'accord ? C'est-à-dire que... En fait, on a 3 millions d'euros motorisés contre 36 millions de VL, VU, VUL et PL. Donc vous voyez qu'on a en fait une mortalité par rapport à l'ensemble du trafic qui est quand même extrêmement importante.
Je peux compléter parce que j'ai aussi les chiffres PACA. En 2019, on a eu 105 tués dans la région PACA sur un deux roues motorisé. C'est 1,5% supérieur à la moyenne nationale. Et le Vaucluse représente 7,5% de ces mortels.
Lors d'un accident de roue, quelles sont les parties du corps les plus touchées ?
Alors, en général, et c'est pour ça qu'on y viendra tout à l'heure dans la troisième partie, en général, c'est le haut du corps. D'accord, qui est principalement touché, je dirais dans une collision avec un VL ou dans une collision avec un objet fixe. Donc on parlera tout à l'heure des améliorations où là on va voir que l'airbag a vraiment une vraie utilité et vraiment une vraie sauvegarde de l'intégrité.
Et alors vous avez commencé un petit peu à nous parler de chiffres il y a quelques instants, mais est-ce que chaque année la tendance est la même ou est-ce qu'il y a des évolutions différentes selon les années ?
On est globalement sur une tendance qui se vaut, hein, on est entre 5 et 8 tués par an. Il n'y a que l'année 2017 qui a été terrible parce qu'on a eu 16 tués sur toute l'année. Voilà.
D'accord.
Mais globalement, on est entre 5 et 8.
On va passer à la partie 2 maintenant, Stéphanie, puisque là, on parlait plutôt de manière générale du risque routier en deux-roues motorisées. Pour nos invités, on va plus parler maintenant de causes d'accidents, des actions aussi mises en place pour les limiter, puisque cette émission, c'est aussi des conseils. Quelles sont peut-être tout d'abord les principales causes d'accidents ? Alors, on peut penser que c'est la vitesse, l'alcool, la drogue. Quelles sont les principales causes ?
Pour les deux-roues motorisées, on parle d'un non-respect de vitesse généralement. Tout ce qui est addiction se rencontre moins sur un deux roues motorisé parce qu'il y a quand même les conducteurs de deux roues motorisées sont quand même conscients du risque. Donc ils sont, comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas de protection. Donc ils font un peu plus attention à leur consommation d'alcool et de stupéfiants. Néanmoins, la vitesse est un facteur qui se voit le plus. Et le non-respect, si vous voulez, des règles de priorité par d'autres véhicules. Voilà. C'est généralement, chaque année, c'est moitié la faute du motard qui roule vite et moitié la faute des autres conducteurs qui leur coupent la route.
Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ces propos ?
Oui, on parlait de la règle des 4 V, hein, c'est baisser sa vitesse, accroître sa vigilance, améliorer sa visibilité et porter des vêtements de protection. On est exactement, je dirais, dans le commentaire que vient de faire M. Geoffrey. À partir du moment où on est à une vitesse adaptée, on est vigilant. On en parlait lors de la dernière émission, puisque c'est la même chose sur le risque routier voiture. Améliorer sa visibilité, oui, effectivement, puisqu'on est beaucoup moins visible, puisqu'on prend beaucoup moins de place, je dirais, en termes de visibilité. Donc là, il faut vraiment améliorer sa visibilité pour être détecté par les autres usagers de la route, d'accord, et porter des vêtements de protection. Bah, si ces vêtements de protection sont en plus à haute visibilité, on aura une détection, bien évidemment, qui va être beaucoup plus importante.
Et alors, justement, là, on parlait de vitesse. Et je crois que la vitesse peut diminuer le champ de vision et avoir certains aspects psychologiques si on roule trop vite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Effectivement, et on en parlait aussi dans le risque routier en voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que physiologiquement, on a à l'arrêt à peu près un champ de vision qui est de 180 degrés. C'est-à-dire que quand vous étendez les bras sur le côté et que vous bougez les doigts, vous voyez à peu près à 180 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la vitesse augmente, plus le champ de vision va diminuer, lui. C'est physiologique. C'est-à-dire qu'à 130 km/h, par exemple, on se retrouve avec un champ de vision face à soi qui est réduit à 30 degrés. D'où l'intérêt de réduire sa vitesse, puisque sur autoroute, vous avez des voitures qui sont dans le même sens de circulation, vous êtes protégé à droite, protégé à gauche. Donc en fait, pourquoi on vous demande de ralentir ? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à un moment, plus vous allez ralentir, plus vous allez augmenter le champ visuel. Et quand vous vous retrouvez sur une nationale, forcément, à un moment, vous êtes dans une voie à double circulation, non protégée à droite, non protégée à gauche, avec des épiphénomènes qui peuvent survenir, des sangliers, des gens qui bougent, etc. Donc là, vous allez augmenter la détection, d'accord ? Vous allez augmenter la détection de ce qui se passe sur la route et donc améliorer quelque part le temps de réaction, le temps de freinage et donc la distance d'arrêt.
Et donc, qu'est-ce que l'hypovigilance ?
Je vais vous donner une stat d'abord pour qu'on soit assez clair. Pas forcément sur la moto, mais sur les accidents en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que les accidents mortels surviennent sur route plate, par beau temps, sur, en général, à moins de 15 km du domicile. D'accord ? Donc ça veut dire effectivement que le cerveau, je dirais, est presque en conduite automatique. Donc l'hypovigilance, c'est effectivement le fait de ne pas être totalement... je dirais que le cerveau ne soit pas totalement concentré sur sa conduite. Et alors, je ne parle pas des distracteurs, je ne parle pas de, qui peuvent en plus, je dirais, aggraver la situation de vigilance. L'alcool va aggraver la situation de vigilance, le cannabis va aggraver la situation de vigilance, mais déjà, le cerveau, lui, quand vous passez tous les jours au même endroit, lui, le cerveau, je dirais, s'habitue à voir le même paysage, s'habitue à voir les mêmes choses, et là, on a déjà, physiologiquement, une hypovigilance déclenchée.
Et alors, qu'est-ce qui peut distraire le conducteur d'un deux-roues motorisé ? Peut-être qu'on peut citer le téléphone assez naturellement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent le distraire ?
Alors, le téléphone, c'est pas ce qu'on rencontre le plus chez un motard. Déjà, il faut arriver à le mettre dans le casque.
Mais on arrive à le voir quand même, hein, des fois.
On arrive à le voir, mais c'est plus sur des scooters en ville, là, oui.
C'est plus des épiphénomènes, oui.
Voilà, le véritable motard, lui, ne téléphonera pas parce que c'est pas pratique. Voilà, un motard qui fait toujours le même parcours sera distrait parce qu'il connaît la route, donc il va penser à autre chose et voilà, c'est ça qui va
le distraire.
C'est l'hypovigilance.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une très courte pause. On va revenir justement sur ce sujet qui est très intéressant, sur les causes d'accidents, les actions mises en place pour les limiter. À tout de suite. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. And I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. I guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again.
This is never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. And I'll stick it up for you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. This time was the last, but I guess it's never really over.
de retour sur l'émission Sur ma route sur l'antenne d'RTVFM. Merci de nous suivre en ce moment. Nos deux invités pour cette émission consacrée aux risques routiers en deux roues motorisées. Monsieur Xavier Legal, responsable de l'association Vigideroux, et monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Et justement, on aimerait en savoir un petit peu plus sur vos deux rôles. Tout d'abord, peut-être monsieur Nicolas Geoffrey, vous, en tant que chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse, quel est votre rôle justement ?
Alors, moi, je suis responsable de toute la politique de sécurité routière dans le département, donc tout ce qui est prévention et sanctions. J'ai une autre fonction aussi qui est chargée de mission de roues motorisées. Tout ce qui concerne la prévention relative aux deux roues motorisées, c'est de ma compétence. Donc voilà, tout ce qui est gestion des accidents et des moyens que l'on met en œuvre pour essayer de sensibiliser le grand public.
Alors justement, les moyens mis en œuvre, on va en parler dans quelques instants. Monsieur Le Gall, pour vous, votre rôle au sein de l'association Vigideroux, et nous rappelez peut-être aussi ce que c'est l'association Vigideroux.
Alors, l'association Vigideroux est une association de prévention du risque routier qui fait à la fois moto, vélo, piéton, auto. D'accord, puisque l'accidentologie ne concerne pas que les motos. Pourquoi on s'appelle Vigideroux ? Parce que au départ, effectivement, nous étions vraiment très concentrés sur la moto. Ceci est dû à nos passés respectifs entre le président et moi-même. Et on a élargi en fait la totalité de nos interventions sur le risque routier en général, puisque ce qu'il faut savoir, et je vous l'avais rappelé, 92% des accidents, d'accord, sont du comportemental. Donc en fait, nous nous sommes mandatés soit par des entreprises, soit par des préfectures, en fait, pour mettre en place des actions de sensibilisation avec des ateliers très particuliers, on en parlera tout à l'heure, et aussi pour l'association Vigideroux aussi, Philippe Vassard et moi sommes en fait au bureau du groupement de promotion de l'airbag moto, puisqu'en fait on essaye d'aller jusqu'au bout de notre philosophie. Et la protection des motards passe aussi aujourd'hui par l'équipement en airbag moto.
Justement, vous parliez de moyens mis en œuvre par l'association Vigideroux. Moi, je souhaiterais quand même en savoir un petit peu plus sur les actions qui sont mises en place.
Alors, on a suivant effectivement la problématique de la préfecture qui nous mandate, vous allez avoir des ateliers qui vont être consacrés à l'intégrité, je dirais, mécanique de la moto. Donc l'intégrité mécanique de la moto, c'est quoi ? C'est en fait, on a un stand qui s'appelle la Moto Mystère, où en fait, on va essayer de faire découvrir aux stagiaires, aux gens qui viennent nous voir, les moyens les plus sûrs et les méthodes pour en fait avoir un œil, je dirais, technique sur sa moto pour le démarrage quotidien, c'est-à-dire savoir bien regarder sa moto, bien regarder les éléments essentiels, sachant que l'essence, par exemple, n'est pas un élément essentiel qui va mettre en cause votre intégrité à partir du moment où vous allez démarrer. Donc on a cette moto mystère qui est extrêmement intéressante et qui révèle en fait un certain nombre de passages assez rapides sur l'intégrité mécanique, et c'est là où on essaye de sensibiliser, pour rentrer dans un discours pédagogique, de sensibiliser les gens sur le prêt-à-partir. J'entends par le prêt-à-partir en toute sécurité pour conserver son intégrité mécanique. On a des ateliers équipement, on va en parler tout à l'heure, et là on va en fait, montrer aux motards et montrer aux stagiaires la manière dont il faut s'équiper, les normes, puisque vous avez énormément de normes en termes de sécurité, les casques, les blousons, les pantalons, il y a aussi beaucoup de progrès, les airbags, les bottes, etc. Donc là on a aussi des ateliers qui sont consacrés exclusivement aux équipements. On a en fait, si vous voulez, on arrive à faire le tour, de la totalité, de la problématique motard avec ces différents ateliers. Mais je dirais pour ceux qui nous écoutent, il y a un site internet qui s'appelle vigideroux.com, d'accord, et vous pouvez aller voir.
Retrouver toutes les informations.
Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations sur vigideroux.com.
Et pour parler moyens, pour la préfecture de Vaucluse, qu'est-ce qui est mis en place au niveau du pôle sécurité routière ?
Alors nous, on organise ce qu'on appelle des perfectionnements à la conduite de moto. Donc ce sont des sessions avec des gens qui s'inscrivent, qui peuvent s'inscrire sur notre Facebook, puisqu'on a le Facebook de la sécurité routière qui annonce toutes les actions que l'on met en place. Donc en compagnie des forces de l'ordre, on prend un groupe de motards, d'une dizaine, et on leur fait faire ce qu'on appelle des sessions trajectoires de sécurité. Voilà, puisque ce qu'on s'aperçoit sur les accidents, c'est que généralement, ils sont dus à une mauvaise trajectoire. Donc une mauvaise trajectoire, et lorsqu'ils sortent d'un virage, ils se retrouvent sur la voie opposée. Donc avec les forces de l'ordre, on leur réapprend ou on leur rappelle les techniques de virages, en fait. Et on a aussi des ateliers où on apprend aux gens à effectuer un freinage d'urgence ou un évitement d'urgence. Voilà, tout simplement, de la maniabilité lente. Et après, bon, on couple ces journées-là avec ce que disait M. Le Gall, la moto mystère, les équipements. Sur des grosses actions qu'on a aussi, on peut faire venir les sapeurs-pompiers qui leur font des sessions de gestes de premier secours, orientés moto. Donc voilà, ce sont des journées assez complètes qui allient la maniabilité, le roulage.
Alors, on va revenir maintenant sur les causes d'accident. On a parlé tout à l'heure vitesse, alcool, mais vitesse excessive, c'est un des facteurs, mais il y a aussi la partie voiture, malheureusement, si on est conducteur de voiture, on a aussi des angles morts. Je pense qu'on peut en parler puisque c'est une des causes, malheureusement, d'accident. Donc il y a un problème de détection, justement, des motos.
Oui, oui, ben, la moto est beaucoup plus petite qu'une voiture, donc forcément, ça se voit moins. La seule chose qui nous permet de le voir quand on est en véhicule, ce sont les feux, hein, les phares qui nous alertent. Bon, et puis des fois, il y a l'angle mort. Et effectivement, tout à l'heure, je parlais des accidents avec des problèmes de priorité, mais ce sont des problèmes de priorité qui ne sont pas forcément volontaires de la part des automobilistes. Il peut arriver qu'ils ne l'ont pas vu. Voilà, il faut être très très vigilant et chercher l'angle mort, ça c'est sûr.
Monsieur Le Gall, est-ce que vous souhaitez rebondir à ce sujet? Est-ce que vous, en tant que motard aussi, ça vous arrive malheureusement d'avoir des personnes qui ne vous voient pas au dernier moment?
Évidemment. D'où l'intérêt de la détection maximum du motard. Quand moi je prends ma moto, déjà je mets un gilet airbag, mais ce gilet airbag il est fluo, c'est-à-dire qu'à un moment plus on va être détecté. Pourquoi il y a des catadiopes, des rétro-réfléchissants sur les casques? C'est pour détecter le casque. Pourquoi on inscrit des normes en fait de rétro-réfléchissement sur les vêtements? Pour une simple et bonne raison, c'est que le motard doit être au maximum détecté. Monsieur Geoffrel disait tout à fait justement, un motard habillé en noir sur une moto noire, forcément, à un moment, vous ne voyez que les feux qui sont rouges ou le feu avant qui est blanc ou jaune, ça dépend. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est la détection. On parlait tout à l'heure de la vigilance. On perd de la vigilance en vitesse, qu'on soit motard ou qu'on soit conducteur d'auto. Justement, détecter le motard, c'est là où à un moment on va améliorer, je dirais, le temps de réaction et on va améliorer la gravité de l'éventuelle collision. Quand effectivement, ce que disait M. Geoffrey, quand on a pu le détecter et quand on a pris le temps, quand l'automobiliste a pris le temps aussi. Je dirais, de contrôler ses angles morts, de tourner la tête, etc., puisqu'on a beaucoup de collisions qui sont de cette nature.
C'est pour ça que nous, on sensibilise vraiment les motards sur nos actions, de rouler par anticipation. C'est-à-dire, quand ils voient un véhicule, il faut qu'ils analysent et qu'ils anticipent l'action du véhicule qui précède. Voilà, c'est pour ça que rouler en moto, c'est pas simplement monter sur sa machine et rouler, c'est analyser, et analyser encore plus vite, ce qui se passe dans l'environnement.
Ouais, puisque la faible saillance visuelle, j'irais, de la moto, d'accord, oblige le conducteur du deux roues motorisé à anticiper. Donc, il dit anticiper, dit prévoir, avoir une vitesse adaptée, à être attentionné, parce que l'inattention est aussi une des causes. Et puis surtout, comme on disait tout à l'heure, l'hypovigilance, c'est l'habitude. Donc, effectivement, tout ce qu'on disait la dernière fois sur le risque routier en voiture est encore plus prépondérant en moto, effectivement.
Et alors, on va parler un petit peu maintenant circulation interfile, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais qui n'est pas autorisé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment c'est encadré?
C'était une expérimentation qui date de 2016. En fait, ça autorisait, alors dans certains départements, hein, c'était pas dans toute la France, hein, certains départements donc ont mis ça en place. Et les motards pouvaient circuler entre deux voies de circulation, à condition que les fils soient ininterrompus. Ils ne devaient pas dépasser 50 km/h et être très vigilants. Donc c'est une expérimentation qui s'est arrêtée le mois dernier, mais elle va être revue et remise au goût du jour. Et le Vaucluse sera intégré dans ce dispositif de circulation interfile. Donc on en fera plus de publicité lorsque les décrets seront signés. Et donc là, vous verrez passer sur notre Facebook, sur tous les sites de la préfecture, les nouvelles conditions de circulation.
Alors, on va parler un petit peu de conseils, encore une fois. Quels sont peut-être les conseils que l'on peut donner pour assurer le bon déroulement d'un long trajet à deux roues motorisées? Voilà, conseils que vous auriez peut-être à donner aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Comme la voiture, c'est se préparer, c'est savoir où on va. En plus, les motos, on n'a pas de GPS, donc il faut anticiper encore plus son trajet. Si on a des bagages avec soi, toutes les motos ne sont pas équipées de sacoches ni de top case, généralement on met un sac à dos, donc qu'il soit pas trop lourd, qu'il soit bien équilibré aussi.
Oui, puis c'est exactement ça. C'est, en fait, la moto est quand même, quel que soit son modèle ou sa forme, la moto est quand même plus fatigante, d'accord, que la voiture, puisque là on est dehors. D'accord, on est soumis aux aléas climatiques. Donc effectivement, bien se préparer, bien se reposer, je dirais bien anticiper les défauts de météo sur le voyage, parce que quand vous faites un Paris-Marseille, effectivement, vous pouvez rencontrer un certain nombre d'aléas climatiques qui vont là vous obliger aussi, je dirais peut-être modifier votre tenue vestimentaire. D'accord. En imaginant qu'entre Lyon et Marseille, il se mette à pleuvoir alors qu'il faisait super beau entre Paris et Lyon. Effectivement, prévoir l'équipement, prévoir aussi, je dirais, tout ce qui est l'essence. Je dirais, parce que l'essence est génératrice de stress. Je veux dire, si on ne prévoit pas suffisamment tôt son arrêt, etc., puis se reposer, comme en voiture, je dirais, on est plus fatigué, donc la vigilance peut éventuellement baisser. Donc effectivement, préparer son voyage, c'est préparer les étapes de son voyage. C'est un moment, je dirais, avoir la totalité des instruments ou la totalité des moyens en cas de problème particulier, parce que des problèmes particuliers peuvent toujours survenir, que ce soit en voiture ou en moto. Mais je dirais que le discours, il est le même. Je pars loin, je prépare mon voyage, mais je prépare mon intégrité. On parlait tout à l'heure des manifestations qui étaient organisées par la préfecture. On parle d'intégrité de conduite, on parle d'intégrité physique, d'accord, et on parle d'intégrité mécanique. C'est exactement ces trois principes, je dirais, qu'il faut appliquer quand on prépare un long voyage. Est-ce que ma moto est en état? Est-ce que ma moto est en bon état? Est-ce que, je donne un exemple assez dans les ateliers, M. Geoffrey le sait, quand vous partez, vous faites pareil, le trajet inverse, vous faites Marseille-Paris, et en imaginant que vous chutez légèrement à Lyon avec un gilet airbag, ce serait un petit peu dommage. Je dirais, à un moment, de ne pas avoir une cartouche supplémentaire, c'est-à-dire que vous ne seriez pas protégé,
oui,
je dirais, entre Lyon et Paris. Donc vous voyez que c'est vraiment des choses à prendre. Pour moi, un départ et un voyage, ça se prépare, comme vous préparerez un voyage. Vous préparerez
ce qui est très important aussi, ce que disait M. Le Gall sur l'équipe, sur la moto, hein, sur l'entretien de la moto. On a fait une action il n'y a pas tellement longtemps, où on contrôlait l'équipement des motards, et l'entretien de la machine. Et là, on avait fait venir un mécanicien avec un compresseur. Donc, sur les 40 motos que l'on a contrôlées, une seule avait la bonne pression de pneus.
Ah oui.
Voilà. Donc, c'est affolant. Là, il faut vraiment, j'attire vraiment l'attention sur tous les motards. Vérifier la pression de vos pneus au moins deux fois par mois.
Oui, effectivement, c'est un très bon conseil.
Et avec une machine, parce que des fois, j'en ai vu, il donne un coup de pied dans le pneu en disant « il est dur, c'est bon, il est gonflé ».
Comment on le vérifie, justement, avec une machine, voilà, comme on dit
comme une voiture. Hein,
voilà, on vérifie la pression, normalement, qui est écrite sur la moto directement.
Exactement. Donc, voilà, surtout ne pas donner des coups de pied dans le pneu pour dire « il est dur, c'est bon, il est gonflé ». Non.
Témoin d'usure aussi. On parle des pneus, mais le témoin d'usure,
il
faut que...
Il n'y a que ça qui lie le motard au sol. Hein.
C'est l'intérêt, justement, de cette fameuse moto mystère. C'est qu'en fait, on lui a mis tous les défauts possibles et inimaginables et qu'on demande aux stagiaires de justement les trouver pour rentrer dans ces discours. Pour rentrer dans ce discours, je dirais, d'intégrité mécanique. C'est ça. Et quand je parle d'intégrité, c'est la machine. Ma machine est-elle conforme? Ma machine est-elle prête? Ma machine est-elle en état? Je dirais, quand je parle en état, c'est la bonne pression des pneus, etc. Je rappelle simplement qu'une pression, une sous-pression des pneus va augmenter forcément le temps de freinage. Et alors, autant dire que si on est sur un grip de pneus qui est complètement usé, on va encore remultiplier, je dirais, cette distance de freinage.
D'autant plus si la route est mouillée.
Voilà, vous avez fait l'addition par vous-même. C'est ce qu'on montre dans les ateliers. En fait, le temps de réaction, c'est le temps entre la détection, la montée au cerveau, et la redescendre vers la main et vers le pied. Donc là, on est entre 0,5 et 1 seconde. Ça, c'est le temps parcouru pendant... C'est la distance, pardon, parcourue pendant le temps de réaction. Et ensuite, une fois que le cerveau a donné l'ordre à la main ou au pied, ou les deux, en moto, vous allez avoir ce qu'on appelle la distance de freinage. Et en fait, cette distance de freinage va être surmultipliée à partir du moment où la route n'est pas en état, à partir du moment où vos pneus ne sont pas en état, ou sont sous-gonflés. Donc effectivement, quand on parlait tout à l'heure de l'intégrité du véhicule, qu'il soit moto ou voiture, effectivement, la conséquence, elle est directe. C'est ce que disait M. Geoffrey. La conséquence, elle est directe. C'est une augmentation du temps de freinage. Donc, on disait tout à l'heure que le motard est dur à détecter. D'accord ? Qu'en général, on est très souvent sur de la survitesse. Donc, effectivement, à partir du moment où il va falloir qu'on soit dans un arrêt qui va être contraint, bah, effectivement, il faut avoir une moto qui est en état. C'est clair.
Et alors, toujours en termes de conseils, comment est-ce qu'il faut réagir si justement on est témoin d'un accident de deux roues motorisées ?
Alors là, c'est comme toujours, c'est le protéger, alerter, secourir. Voilà, toujours. Protéger, alors se protéger soi, protéger l'accident, sans se mettre en danger, bien sûr. Alerter, bon, c'est alerter les secours, donc soit le 18 pour les pompiers ou le 112 pour le numéro universel. Et secourir, bah, faire ce qu'on peut, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'improviser médecin, et surtout ne pas enlever le casque parce que ça peut avoir des conséquences terribles. Secourir, mais sans s'improviser médecin, voilà.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va marquer une dernière pause musicale avant de parler de nouveau des équipements et de l'entretien. On va rentrer un peu plus dans le détail de cette émission. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur ma route sur l'antenne d'RTVFM. On est dans le risque routier en deux roues motorisées. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
I'm a scatman.
And I'm the hat man.
Shorty, I'm not stopping on a worldwide tour. Everybody's scatting, mix it up to the sound of the mambo. Yes, I can't be blocking 20 years and more. Scatting Lou, I'm popping. Shake what your mama gave ya. Scatman and hat man,
traveling time.
Scatman and hat man,
going online.
Scatman with hat man,
do it in style.
Let's go, 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 hat man.
Never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man.
Scat man and hat man,
traveling time.
Scat man and hat man,
going online.
Scat man with hat man,
do it in style.
Let's go, 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 and let them know.
Strike a knockout blow in London, Rio, Tokyo.
Scatman and Hatman,
traveling time.
Scatman and Hatman,
going online.
Scatman with Hatman,
do it in style.
Let's go, 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 and let them know.
We'll be right back.
Et de retour dans l'émission Sur ma route avec nos invités du jour, monsieur Xavier Le Gall, responsable de l'association Vigie de Roue, et monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Merci à tous les deux d'être présents avec nous dans cette émission en ce mois d'avril. On parle donc du risque routier en deux roues motorisées et nous sommes maintenant sur notre dernière partie. On va plus parler équipement et entretien et justement rappeler un petit peu quels sont les équipements obligatoires dont les deux roues doivent être équipées.
Le casque, déjà. Et les gants, ça fait depuis 2017 où les gants sont obligatoires. C'est tout ce qu'il y a d'obligatoire, après tout le reste est conseillé.
Et est-ce que vous avez des conseils à donner justement sur le choix de ces équipements? Donc du coup, que ce soit des équipements obligatoires ou des équipements plus conseillés?
Alors le choix de toute façon il est vite fait, parce qu'il faut que les gants soient aux normes, et le casque également. Voilà, on ne peut pas mettre un casque de cheval sur, pour faire de la moto, des gants MAPA pour faire la vaisselle, voilà, pour conduire une moto, c'est pas autorisé non plus, voilà. Il y a des normes qu'il faut respecter. Et surtout, avoir un équipement, c'est bien, mais notamment le casque, il faut qu'il soit correctement attaché. Parce qu'un casque qui n'est pas correctement attaché, en cas de chute, il s'en va. Donc il ne sert à rien.
Monsieur Le Gall.
Et correctement adapté à la tête du... adapté à la tête du, motard. Qu'on n'ait pas une différence pour un confort un peu trop important. Il y a des tailles dans les casques. D'accord, il faut évidemment, mais c'est une évidence, mais c'est quand même bon de rappeler les évidences. De même que Nicolas Geoffrey disait à l'instant que les seules choses obligatoires, hein, je dirais, sont pas nombreuses. Mais après, je pense que c'est une question, et je reprendrai aussi, c'est une question de bon sens. Je dirais, plus on va être protégé, à un moment, plus la gravité de la chute va être moindre. Je dirais un blouson coquet, un airbag, un pantalon en Kevlar. On voit beaucoup, hein, on voit beaucoup quand même de motards qui roulent vraiment sous-équipés. Et je trouve que c'est extrêmement problématique. On voit des gens qui roulent encore en tongs et en short en plein été. Donc là, c'est effectivement.
C'est une question de bon sens. Hein, ouais. Parce que, bon, tant qu'on est sur la moto, à la rigueur, ça va. Mais on n'est pas à l'abri d'une chute. Et une chute en short sur du goudron, je pense que ça fait mal.
C'est très abrasif.
Oui, voilà. Tout à fait.
Très, très abrasif. Donc effectivement, voilà, on est sur, je dirais, la qualité de son équipement fait aussi. Je parle ni de marque, ni de. Mais je dis que la qualité de son équipement fait aussi l'intégrité, je dirais, du motard. Un pantalon digne de ce nom, des bottes, alors pas besoin d'avoir des bottes qui montent jusqu'au genou, mais en fait pour protéger le tibia et pour protéger la partie cheville, malléole, pied, etc.
Que ce soit des chaussures montantes.
Des chaussures montantes, voilà, qu'on aille au minimum jusqu'à la cheville, un bon pantalon. Il y a aujourd'hui des pantalons qui sont même en Kevlar, hein, jean et Kevlar. On a des blousons. Les blousons aujourd'hui, pareil, sont extrêmement, je dirais, extrêmement bien faits. Et comme le disait Nicolas Geoffrey à l'instant, un casque bien attaché, un casque aux normes, des gants aux normes. Effectivement, je n'irai pas jusqu'au gant MAPA, mais de temps en temps, on voit quand même des gants, je dirais, qui n'auront aucune efficacité
si on tombe.
En cas de chute. Voire même selon la matière, qui pourrait aggraver la brûlure. Donc à un moment, oui, effectivement, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant.
Oui, même pour les blousons, hein, c'est ouais. Ce que M. Le Gall dit est tout à fait vrai. Certains blousons en synthétique, en cas de chute, c'est pire que de ne rien avoir presque.
Donc comme, pour résumer, c'est pas du tout les équipements, il ne faut pas faire d'économie dessus.
C'est ça qui nous protège, donc c'est ce qu'il faut se mettre en tête.
C'est la carrosserie. La carrosserie, c'est les équipements. D'où l'intérêt d'avoir un vrai équipement. On en voit, je vous dis, on en voit tellement. On voit tellement. Et malheureusement, je dirais pas malheureusement pour eux, mais quand on connaît les conséquences de l'accident, quand on connaît, je dirais, les problématiques que ça peut engendrer derrière en termes de gravité de blessure, je dirais, oui, effectivement, il faut surtout pas, renier sur le budget équipement, effectivement.
Alors, suivant le temps aussi qu'il fait, la météo a un impact forcément sur la conduite, mais aussi sur l'équipement que l'on doit porter. Ça peut être des fois assez contraignant aussi, comme on disait, peut-être entre chez nous, donc Carpentras et Marseille, des fois on peut avoir des temps qui changent, de la pluie, du soleil, des températures très chaudes, et puis d'un coup il fait froid. L'équipement est assez contraignant. Comment on peut s'y prendre? Quels sont peut-être les conseils à donner suivant le temps qu'il fait? Comment s'équiper en conséquence?
De toute façon, il faut partir du principe que quand on prend la moto, il faut un casque, des gants, un blouson, un pantalon et des chaussures montantes. Après, on le sait, ce sont les inconvénients de la moto. Alors, il y a des avantages parce qu'on a un sentiment de liberté, parce qu'on peut dépasser les véhicules lorsque c'est autorisé, mais l'inconvénient, c'est qu'on est soumis aux aléas climatiques. Donc, malheureusement, quand on achète une moto, il faut que ça soit intégré dans notre esprit.
Vous parliez tout à l'heure de la préparation du voyage et vous parliez du sac à dos. Même si une moto n'est pas équipée de top case, puisque les sportifs ne sont pas équipés de top case, dans un sac à dos, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On doit avoir déjà de quoi, ne pas être contraint par des températures, par des changements de température, donc, ou par des pluies extrêmement, extrêmement importantes. Un vêtement de pluie, ça prend, entier. Ça prend roulé dans un sac à dos, ça prend pas de place. Hein. Je dirais, où on a eu très très chaud, je veux dire, reprévoir un t-shirt pour ne pas attraper froid. Ma maman me disait, il y a très très longtemps, de mettre du journal aussi sous mon blouson, de mettre du papier journal sous mon blouson quand je roulais assez longtemps. Effectivement, plus on va avoir, une conduite et un parcours qui va pas être contraint par les conditions météo, par le fait de subir les conditions météo, plus on va pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, se concentrer sur sa conduite, se concentrer, ne pas être mis en situation, je dirais, de stress justement par le froid, par le trop chaud, par la sueur, puis dans le casque, effectivement, si on a trop chaud, à un moment, ça peut aussi, provoquer des sueurs qui peuvent gêner la vision, etc. Donc, effectivement, c'est se positionner comme étant pas dans le confort, parce que le confort pourrait, en fait, aller vers l'hypovigilance, mais au moins se mettre dans une situation qui n'est pas génératrice de stress supplémentaire, qui pourrait être là un distracteur. D'accord, on essaye d'être le mieux possible et on essaye d'être le plus à l'aise possible, sur son parcours.
Et est-ce qu'il y a eu des améliorations sécurité au niveau des équipements ces derniers temps?
Alors oui, il y a une très grosse amélioration qui est aujourd'hui le gilet airbag. D'accord, donc les gilets airbag sont... je parle là aussi en tant que vice-président du GPM, donc qui est le groupement de promotion d'Airbag Moto, c'est-à-dire que l'ensemble des fabricants s'est mis dans cette association, pour pouvoir promouvoir auprès des usagers l'Airbag Moto. Donc alors un airbag, ça, vous avez plusieurs types d'airbag, puisque je vois vos yeux qui me posent la question.
Tout à fait. En quoi ça consiste déjà?
Alors un airbag, en fait, est un coussin gonflable qui va se déclencher, à partir du moment où le motard va chuter ou va être éjecté de la machine. Alors il y a deux grands systèmes, d'accord? Il y a un système filaire où en fait l'airbag est accroché à la moto. Il y a évidemment une partie fixe de la moto. Donc là, c'est pareil. Quand on travaille avec les forces de l'ordre, on montre comment s'accroche un gilet airbag. D'accord? Et là, vous allez avoir un déclenchement qui va déclencher une cartouche de gaz, puisqu'en fait, le fil va se tendre. La pastille qui va sortir du système va déclencher le gilet airbag. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle un gilet airbag autonome. D'accord? Où là, vous avez une centrale inertielle. En fait, à l'intérieur, qui va calculer, il y a un gyroscope à l'intérieur, il y a un accéléromètre, et dès que les deux paramètres vont se mettre en défaut, l'airbag va se déclencher. La grosse différence, alors là, c'est pas une grosse, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui se déclenche, le gilet autonome se déclenche en environ 60 millièmes de seconde, alors que le filaire se déclenche en un dixième de seconde. Mais je vous rassure, c'est nettement suffisant. Pour protéger l'intégrité du motard. Alors pourquoi le gilet airbag aussi? Parce qu'en fait vous êtes protégé sur la partie avant, donc la partie thoracique, la partie viscérale, et puis vous êtes protégé sur l'ensemble de la colonne vertébrale jusqu'au lombaire, parce que quand il se gonfle jusqu'au lombaire, et surtout la partie qui se gonfle autour des clavicules va maintenir le casque. D'accord, on va maintenir le casque dans une position droite, et c'est donc ça l'intérêt aussi du GD airbag. Mais là, on a une vraie... Et on commence à avoir des études, hein. On a une vraie progression de l'intégrité corporelle du motard en cas d'accident. Alors il y a deux types de GD airbag. Vous avez celui qui se met sous le blouson et vous avez celui qui se met sur le blouson. Donc vous imaginez bien que celui qui se met sous le blouson, il est autonome, parce que sinon ça supposerait qu'il faut faire un trou dans le blouson pour avoir un fil air. Donc
c'est un peu compliqué.
La chose s'explique d'elle-même. Mais si je peux me permettre, régulièrement on fait des actions dans les actions qu'organise la préfecture pour justement, je dirais, proposer des démonstrations de gilet airbag pour sensibiliser vraiment les gens à porter l'airbag, puisqu'on est sur une conservation de l'intégrité qui, là, n'est plus à démontrer, n'est plus à prouver.
Oui, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Hein, l'airbag, c'est pas encore bien connu de l'ensemble des motocyclistes. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que nous, on organise une action de perfectionnement à la conduite de moto, on a cet atelier airbag, plus... De par l'intermédiaire du GPAM, on peut bénéficier de tarifs avantageux pour ceux qui veulent s'équiper. Parce que nous, la règle du jeu, c'est que l'ensemble des motocyclistes s'équipent d'airbag, puisqu'on a vu l'efficacité justement de ce dispositif.
C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de nos idées avec M. Geoffrey. C'est-à-dire que là, toutes les actions qui vont avoir lieu, où les motards vont rouler avec les forces de l'ordre, on va les équiper. On va les équiper de gilets airbag. Voilà, de manière à ce qu'à un moment, voilà, ils sachent que c'est le gilet airbag, même si on leur fait la démonstration et on leur montre et on leur explique l'intérêt de la chose, hein, on gonfle, on procède à ce qu'on appelle vulgairement un pétage du gilet airbag, mais c'est un gonflement du gilet pour que les gens s'aperçoivent vraiment des parties qui sont protégées, de la manière dont ça fonctionne. Et ensuite, je dirais, l'intérêt, c'est aussi, à un moment, je dirais que les gens s'approprient ce nouveau moyen de protection où, je répète, on est sur une conservation de l'intégrité. Vous savez, si les forces de l'ordre, motards, gendarmerie, police, sont équipées depuis 2013...
Une raison.
C'est qu'il y a une raison, d'accord ? Ce sont des professionnels de la moto qui passent entre 8h et 9h par jour. J'espère que j'ai fâché personne en disant ça. Mais ce que je veux dire, voilà, ce sont des professionnels. Les professionnels sont équipés. Je dirais, nous, on doit aussi s'équiper. Comme vous disiez tout à l'heure, on peut rouler en short, en tongs et en t-shirt.
Il suffit d'une fois.
Il suffit. Même, je trouve que c'est complètement ubuesque. Vous montez sur votre moto, vous vous équipez un maximum, parce que effectivement, on n'en a pas parlé depuis le départ, mais le motard est un usager vulnérable. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer, je pense que ça commence à être évident. Le motard est un usager vulnérable.
Complètement. On est toujours du coup dans les organes de sécurité. Le casque, pour certains, quelle est la durée de vie d'un casque ? Il faut le changer assez régulièrement. Tous les 5 ans, il me semble, ça dépend peut-être de la marque.
Il est conseillé tous les 5 ans, effectivement.
Pourquoi est-ce qu'on doit changer un casque régulièrement ? C'est l'intérieur, peut-être, au niveau de la mousse ?
Exactement. C'est ce qui... le casque est une conception assez complexe. Il y a un système de mousse et une espèce de polystyrène donc qui est plus ou moins épais selon les endroits du casque, et au fur des années ça se détériore, et c'est pour ça que
le vieillissement des matières, hein.
Voilà, on conseille de changer, et il est conseillé aussi à chaque fois que le casque chute. On part du principe qu'il n'est plus valable.
C'est même plus que conseillé, je crois.
Ah bah là, oui, c'est même obligatoire.
C'est même obligatoire.
On va parler maintenant un peu plus peut-être aussi sanctions, puisque c'est une réalité. Si on ne porte pas des équipements au niveau véhicule, au niveau conducteur, on a un risque peut-être d'amende, de retrait de permis. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ?
Alors, le non-port de casque est donc verbalisable, c'est 90 euros. Et les gants, c'est aussi verbalisable, puisque c'est obligatoire. Donc si vous ne l'avez pas, c'est un défaut, et un défaut, c'est verbalisable.
Et alors, tout à l'heure, on a un petit peu parlé des vérifications à effectuer sur le véhicule, notamment au niveau des pneus, de l'usure et de la pression. Mais quelles sont les autres vérifications qu'il faut que le conducteur effectue ?
Alors déjà, tout ce qui est feu, les feux avant, les feux arrière, les freins, vous savez, les feux de frein. Regardez aussi la chaîne, si elle est bien graissée, si elle est bien tendue, parce que ça aussi, s'il y a un défaut de chaîne, ça risque de casser et d'entraîner une chute.
En fait, il faut recommander à vos auditeurs de venir faire nos ateliers Moto Mystère, et là vous verrez qu'on va aller vraiment très très loin, je dirais, parce que ça peut être le serrage des bracelets, ça peut être Vous savez, quand vous prenez votre moto comme un véhicule, je dirais, habituel, et que vous ne prenez pas le temps de la regarder, en fait, c'est de la mécanique. Donc, de la mécanique peut subir, soit par un roulage long, soit par un défaut d'entretien, peut effectivement subir, je dirais, des problématiques, mais qui sont inhérentes à la mécanique. Donc, en fait, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est aussi un moment, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer, et c'est pour ça qu'on a ce moyen pédagogique, de dire... Faites rapidement le matin, il y a une méthode, hein, il y a une méthode pour le faire. Donc faites rapidement, au moins, au minimum, un tour de votre moto le matin. Et je dirais, c'est pas forcément le plein d'essence qui est le plus important, d'accord ? Puisque si vous arrivez à aller vivant jusqu'à la pompe à essence, ça c'est peut-être plus important. Mais c'est ce que disait à l'instant Nicolas Geoffrey, c'est un kit chaîne défectueux, d'accord ? Une chaîne trop tendue ou des pignons usés. C'est forcément, à un moment, une problématique de chute directe. Un bracelet de frein ou un bracelet de poignée d'embrayage mal serré, c'est une chute. Donc, à un moment, effectivement, et sans nous faire de la publicité, effectivement, si la préfecture organise ce genre de choses, c'est vraiment parce qu'à un moment, il y a une vraie problématique. Il y a une vraie problématique de cet entretien moto.
Ah, c'est le même problème, hein, c'est l'habitude qui tue. Hein.
Voilà. Si, imaginez bien, et je ne sais pas si je peux le dire, mais si à un moment, il va y avoir peut-être dans les années à venir une législation qui va évoluer sur le contrôle mécanique des motos, c'est peut-être aussi un moment parce que, en tant qu'utilisateur, on ne fait peut-être pas suffisamment ce qu'il faut pour à un moment avoir une intégrité mécanique qui est suffisante.
Une autre question aussi sur le contrôle technique, on entend parler depuis plusieurs années. Est-ce que ça va voir le jour pour les motos en France ? Sur quoi ça pourrait potentiellement porter au niveau de ce contrôle technique, monsieur Nicolas Geoffrey ?
Alors effectivement, ça fait quelques années qu'on en parle. Là, ça revient sur le tapis, là, actuellement. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, ça va arriver, hein, tout dépendant des autorisations qu'on a... de la part de la législation. Ce serait un contrôle technique qui serait obligatoire pour la revente de la moto pour sécuriser, si vous voulez, le nouvel acheteur. Voilà la tendance qui se dégage. Après, bon, je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail, mais on va attendre... Comme le reste, les décrets d'application.
Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Nous avons passé une heure ensemble. Pour finir, on va rappeler peut-être des éléments importants. L'association Vigie de Roue, au niveau de la préfecture, peut-être des éléments, des informations, notamment sur l'organisation d'ateliers. Comment vous contacter si on a une entreprise, une collectivité. Je vais commencer avec Monsieur Le Gall pour la partie Vigie de Roue pour l'association.
Donc, pour contacter l'association Vigie de Roue, le site internet www.vigiederoue.com. Vous pouvez me contacter en direct. Mon numéro est sur le site internet. Et en fait, nous organisons, je dirais, sur l'auto, moto, auto, piéton et moto. Donc, un ensemble de plus de 30 ateliers. Et ça fait plus d'une quinzaine d'années que l'association existe. Donc, en fait, aujourd'hui, on est à même... je dirais, de répondre pratiquement à toutes les sollicitations. Et je rappelle pour à ce sujet-là qu'en fait, il y a une obligation de prévention quand même en termes de... pour les entreprises, hein, d'accord ? Il y a une obligation de prévention dans le cadre du ERP. Donc si les gens veulent partager et si les gens veulent en apprendre un petit peu plus, effectivement, on est à leur entière disposition.
Monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse aussi, peut-être des informations à nous communiquer sur l'organisation.
Oui, alors cette année, nous avons 8 stages de perfectionnement courbe et trajectoire de sécurité, donc de programmer. Vos auditeurs peuvent aller sur le site Facebook de la sécurité routière de la préfecture de Vaucluse et ils verront toutes les dates. Et pour nous contacter, c'est très simple, c'est pref-sécurité-routière@vaucluse.gouv.fr, mais ça, tout est indiqué sur le Facebook.
Pour le Facebook, effectivement, Vigie de Roue a aussi un Facebook, donc vous pouvez nous retrouver sur le Facebook Vigie de Roue, avec grand plaisir.
Et il reste des places, donc si vos auditeurs veulent venir nous rencontrer et rouler avec les forces de l'ordre, ils seront les bienvenus.
Eh bien, on relayera ça aussi peut-être sur les réseaux. Merci aussi Stéphanie de m'avoir accompagné pour cette émission. Je rappelle que l'émission de ce mois d'avril était sur le thème du risque routier en deux roues motorisées. Vous pouvez donc la retrouver en intégralité, si vous l'avez pris en cours de route en ce moment, vous pouvez la retrouver sur notre notre site internet www.rtvfm.net et via aussi notre page Facebook Radio RTVFM. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci monsieur Xavier Legal, donc responsable de l'association Vigideroux, et monsieur Nicolas Geoffrey, chef du pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse, d'être venu dans cette émission. Puis à très bientôt peut-être pour d'autres émissions justement sur ma route. Merci.
Merci. Au revoir.
D'écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.